Parler d'inclusion, concrètement, c'est pas si simple. En Ardèche, un lycée d'Aubenas a organisé une table ronde avec 6 intervenants pour croiser les regards et partager leurs expériences. C'est sur un FouRC.
Donc je suis Frédéric Mazon, je suis la proviseure du lycée Astier depuis le 1er septembre et je suis sincèrement ravie au nom de toutes mes équipes de vous accueillir ce soir dans notre lycée polyvalent Astier. Le lycée compte à peu près plus de 600 élèves. Que vous dire en plus du lycée Astier que je découvre depuis quelques mois maintenant, que ce lycée offre une mixité de publics dont l'objectif des enseignants est de les conduire vers la réussite en comptant, quelle que soit la formation, sur la collaboration étroite avec le territoire socio-économique et avec vous, les entreprises, les associations, les partenaires sociaux et autres qui nous permettent de travailler avec nos élèves. Donc pour cela, je suis très honorée de ce rapprochement école-entreprise qui se déroule dans ce lycée et qu'ensemble, partenaires, nous soyons, et je vais reprendre le titre de la soirée, co-architectes de l'inclusion, une affaire de tous et de tout un chacun. Ce sont ces deux personnes, sincèrement, qui ont porté l'organisation de cette rencontre. Madame Isabelle Romeillet, qui est la directrice du CIO, ici présente, Aubenas Privat, et Madame Melinda Salou, qui est la responsable du bureau des entreprises du lycée Gimont et Astier. Donc merci à elle. Donc qu'est-ce que le CLE ? Je vous en donne une définition la plus basique. C'est le comité local école-entreprise qui constitue un espace de réflexion, de concertation et de mutualisation des énergies destinées à mettre en place des actions communes entre l'éducation nationale et les partenaires du monde économique, social, favorisant la découverte des métiers, les choix d'orientation, l'employabilité à terme et l'emploi de nos élèves, bien entendu. C'est dans ce cadre-là que le lycée Astier et le CIO d'Aubenas Privat sur le réseau territorial se sont engagés dans une réflexion commune autour de l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers, élèves en situation de handicap, élèves nouvellement arrivés en France, élèves pris en charge par la mission de lutte contre le décrochage scolaire, dans leur parcours professionnel au lycée et en entreprise. L'idée d'organiser une soirée pour les parents, pour les personnels d'éducation nationale, où nous avons également des AESH qui vous ont servi de guide pour certains groupes, des coordonnatrices, des professeurs, tous les acteurs locaux qui participent à l'accompagnement et à l'insertion de nos élèves. Donc le titre « Co-architecte » pour croiser les regards, pour échanger, pour débattre, pour former, et tous ces verbes d'action, parce qu'on est tous là, au quotidien, je pense à les mettre en marche, à les faire avancer, vont nous permettre d'améliorer les collaborations et les coopérations, c'est ce que nous espérons avec cette soirée, et je vous remercie sincèrement de votre présence, et vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous.
Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, lors de cette table ronde, nous allons rencontrer différents acteurs du territoire avec lesquels nous allons faire connaissance et partager un moment d'échange. Nous avons la chance d'avoir parmi nous ce soir Alexandre Pasqueron de Fontmerveau. Il se présentera, vous inquiétez pas. Tu peux te mettre. Valérie Poudré, Arnaud Dubois, Stéphanie Levillain, Richard Villard et enfin Leslie Gigarel.
Alexandre de Fontmerveau, je suis doctorant à l'Université de Grenoble, une thèse qui est financée par l'ADAPEI 07 et rattachée à la communauté 360. Moi, je travaille sur l'inclusion des personnes en situation de handicap par les pratiques de loisirs essentiellement sportives sur le territoire ardéchois.
Monsieur Pasqueron, en quoi le projet Paris, qui s'appelle donc Parasport Ruralité Inclusion, peut-il servir de modèle pour l'inclusion professionnelle des jeunes à besoins éducatifs particuliers en milieu rural.
On va peut-être se tutoyer, Mélinda, on a travaillé à Sanson.
Si vous voulez, on se tutoie.
C'est là que c'est intéressant, parce qu'en fait, nous, on avait pris le truc un peu inverse, hein, c'est-à-dire qu'on se rend compte que le secteur de l'emploi est complètement obolisé pour les personnes en situation de handicap. On est sur des taux de chômage qui sont deux fois supérieurs. Et là, je vous parle du chômage. Ça veut dire que je vous parle pas du taux d'inactivité, parce que pour être au chômage, vous savez, pour être inscrit à Pôle emploi, et il y en a qui le sont simplement pas, pour diverses raisons. De toute façon, le monde de l'emploi, il est aussi assez embolisé pour les valides, d'ailleurs. Donc, on s'est dit qu'on allait trouver une autre façon de faire société ensemble. Et l'une des façons possibles, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'on pourrait pas se rencontrer sur des lieux de loisirs ? Sur les lieux de loisirs, il y a à peu près, de mémoire, c'est plus de 70% des personnes en situation de handicap qui disent vouloir pratiquer une activité physique régulière. Dans les faits, il y en a à peine plus de 40% qui le font. Et puis, il y a énormément des choses qui sont sectorisées entre les activités physiques adaptées où on fait de l'entre-soi qu'entre personnes en situation de handicap. Il y a vraiment cette idée, je crois, derrière quand même de faire société autrement. C'est-à-dire que, enfin, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le domaine institutionnel, alors, pas taper sur l'institution, c'est pas du tout le propos, mais on a quand même des parcours où vous avez un gamin qui peut aller faire toute sa scolarité à l'IME qu'avec des personnes handicapées. Et il pourra ensuite aller travailler à l'ESAT qu'avec des personnes handicapées. Il n'ira pas vivre dans l'appartement en face du vôtre. Il ira vivre en foyer d'hébergement ou en foyer de vie en fonction de son degré de handicap. Qu'avec des personnes handicapées, on lui proposera des séjours adaptés ou des activités physiques handicapées. Il y a ces gens avec qui, en fait, on a accepté à peu près communément de ne pas faire société. Et ces règles-là, vous ne les avez pas choisies. Je ne crois pas les avoir choisies non plus. Alors, pourquoi est-ce qu'on continue de les respecter ? Il y avait ça, l'idée derrière, c'est de fabriquer des lieux de rencontre. Donc on a pris le domaine, nous, complètement inverse de l'emploi, quoi, pour répondre à ta question.
Très bien. Quel rôle le sport et les activités de la DAPI jouent-ils dans le développement des compétences psychosociales, c'est-à-dire le savoir-être, utile justement en entreprise ?
Sur les activités sportives qu'on pratique, je vais peut-être présenter un tout petit peu le projet. Il y a pas mal d'expérimentations. On fait... on couvre à peu près bien le territoire ardéchois, à peu près. On fait du vélo à Annonay, on fait du cirque à Joyeuse, de l'escalade à Vallon-Pont-d'Arc, on fait du triathlon à Montélimar. On a réussi à annexer Montélimar au moins par cette façon. On fait du canoë au Pouzin et de la randonnée à Burzet. Alors, je suis désolé, je peux avoir un peu le... En fait, mes activités de doctorant m'ont amené à passer 3 semaines au Québec et je suis rentré genre à midi. Donc le jet lag est un peu violent. Alors du coup, en deux temps, peut-être d'abord le sport, on voit que la socialisation, en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne, quoi. Et que c'est quelque chose qui fonctionne même entre personnes handicapées et personnes valides. Donc, de là, en fait, des points de rencontre qui deviennent réguliers, qui finissent par ressembler à des horaires, peut-être que ça peut jouer. Et du reste, les rôles de l'ADAPI, de manière générale, nous, on a un secteur travail assez développé, en fait. Hein. Je vois au moins une personne en face de moi qui a bossé à l'ESAT l'avenir, où là, c'est des entreprises réservées pour les personnes qui sont notifiées et qui relèvent de cet établissement. Et de même, avant, on a aussi un IM Pro à l'Alvan.
Merci beaucoup. On va passer peut-être une question à Madame Poudré. Alors Madame Poudré, la première question, c'est ce que tout le monde se pose, hein, c'est en quoi consiste votre activité de facilitatrice en intelligence collective ?
Bonjour. Pour replacer le cadre dans lequel je travaille, Alexandre a parlé de la communauté 360. Donc les communautés 360, pour vous expliquer, il y en a dans chaque département de France, et donc il y en a forcément une en Ardèche, et elle se compose de 3 services. Le premier, c'est la médiation de parcours. Donc vous avez un numéro d'appel national qui est le 0800 360 360 que peut saisir toute personne en situation de handicap qui est sans solution ou en solution inadaptée ou qui a besoin d'appui, de soutien. Et vous avez donc une personne qui va venir comprendre le besoin et tenter de trouver des solutions avec elle. Et puis, vous avez aussi l'assistance au projet de vie. Donc, c'est une personne qui va travailler avec les personnes en situation de handicap sur ses aspirations, ses besoins et travailler à verbaliser, concevoir son projet de vie. Et juste pour vous, je vous dis ça parce que du coup, au sein de la communauté 360, la question du passage à l'âge adulte, donc de l'adolescence à l'âge adulte, c'est une étape charnière pour n'importe quel jeune et qui pose des défis complémentaires pour les jeunes en situation de handicap et qui représente beaucoup de demandes. Donc voilà, c'est une étape assez importante. Parce que en fait, on est sur des transitions. On passe d'un milieu qui est le milieu scolaire au milieu de l'emploi. Donc, il y a un changement d'environnement. Il peut y avoir un changement d'habitat également. On est souvent sur des transitions identitaires. On passe du statut d'élève à celui de travailleur. Donc, il y a tout ce qui est confiance en soi, estime de soi. Et puis, il y a toute la transition administrative. Quand un jeune en situation de handicap a un accompagnement médico-social, il change de secteur, il va dans le secteur adulte et du coup, on va aussi avoir un changement d'accompagnateur. Donc, c'est vraiment des moments assez importants. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ça représente... Enfin, le handicap, c'est difficile d'en parler de manière générale parce qu'il y a beaucoup de types de handicap. Et même des personnes qui vont avoir le même type de handicap, souvent, elles peuvent avoir des besoins dans le quotidien différents. Mais par contre, l'avantage de parler des personnes en situation de handicap de manière globale, c'est que souvent, il y a des étiquettes, des stéréotypes qui persistent, notamment sur la question de l'emploi. Parce qu'on a souvent une vision assez médicale du handicap. On va parler de la déficience. On va associer... et souvent, la déficience, on va dire une personne va être déficiente de manière globale, alors que ce n'est pas forcément le cas. Je vous donne un exemple qui est assez parlant, c'est la question de la sourdité. Une personne qui va être sourde va souvent développer d'autres sens, comme la question de la vue. Et donc, voilà, du coup, on a tendance à dire que la personne va être déficiente de manière globale et elle va être difficile à insérer en entreprise, alors qu'en fait, elle peut avoir beaucoup de compétences. Et pour vous appuyer l'exemple, je vais vous donner l'exemple de Virginie Delalande, qui est une grande avocate sourde et elle est conférencière également. Et elle nous dit qu'en fait, le handicap, ce n'est pas un frein à la performance en entreprise, parce que souvent, c'est ce qu'on associe à ça. Mais ce qui freine, c'est vraiment les peurs, les préjugés et le manque de dialogue, vraiment la discussion. Et elle prenait un exemple. À Paris, elle a fait un entretien d'embauche dans un grand cabinet d'avocats. Et là, l'entretien se passe bien, ils discutent. Et à la fin de l'entretien, elle se lève, elle part. Et la personne, elle la regarde et elle dit « Je ne comprends pas comment une personne comme vous peut prétendre vouloir être avocate. » Donc, à partir de là, voilà, elle a construit tout son parcours. On a quand même encore beaucoup de préjugés, en tout cas, sur ces questions-là. Et du coup, pour répondre à votre question, je reviens. Le troisième service de la communauté 360, c'est le Collab. Donc, c'est un laboratoire d'innovation médico-sociale où l'enjeu, c'est de répondre aux problématiques que vont rencontrer les personnes en situation de handicap sur le territoire par des expérimentations, par des projets, des expérimentations de projets, par de tests d'idées. Et le travail de facilitation d'intelligence collective, en gros, c'est un ensemble de méthodes et d'outils qui vont accompagner un collectif ou un groupe vers un objectif commun. Et pour ça, ces méthodes-là, elles permettent d'organiser les échanges, de faire émerger des idées, de favoriser la participation de tous et aussi de favoriser la prise de décision collective.
Merci beaucoup. Un petit mot sur le projet Grandir et puis comment vous initiez justement la collaboration entre les différents partenaires autour du jeune et de ses besoins.
Oui, alors le projet Grandir, alors là on va quitter l'Ardèche, on va aller dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France exactement. Donc c'est un collectif qui rassemble des entreprises, des associations, des structures du médico-social, des citoyens, dont des citoyens en situation de handicap. Et en fait, c'est un collectif qui est parti d'un constat. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui souhaitent travailler, mais elles rencontrent dans l'accès à l'emploi, on va dire ça comme ça, elles rencontrent de nombreux obstacles. C'est souvent des préjugés, un manque d'accompagnement, des difficultés dans le recrutement et beaucoup d'isolement. Et donc, toutes ces personnes, elles se sont mises ensemble, elles se sont réunies ensemble en utilisant justement l'intelligence collective avec des ateliers collaboratifs, des groupes de travail, des événements type hackathon, ce genre de choses. Et leur devise, c'est pas de discours creux, mais vraiment des actions ciblées pour briser, pour eux, ils parlent comme ça, briser les barrières systémiques. Parce que l'accès à l'emploi, c'est aussi une question territoriale, c'est aussi des barrières systémiques. pour vraiment offrir une vraie place à l'emploi aux personnes en situation de handicap. Donc ils essayent d'avoir des actions un peu radicales et efficaces. Et la deuxième chose de ce collectif, l'idée c'est qu'il n'y a rien pour les personnes en situation de handicap sans les personnes en situation de handicap. Donc l'idée c'est qu'elles soient présentes vraiment tout le temps. Ils utilisent toutes les actions que ce collectif fait, ils le font dans une logique open source. Donc l'idée, c'est de mettre à disposition l'ensemble de leur production. Et puis, leur deuxième spécificité, c'est qu'ils misent vraiment sur la valorisation des spécificités des jeunes. Ils disent, on va vraiment s'intéresser à leurs spécificités, à leur savoir-faire. Des fois, ça peut être de la créativité. Et d'utiliser ces spécificités comme levier pour les entreprises. Alors, je vais vous donner des exemples d'actions qu'ils ont menées. Par exemple, ils ont créé Panorama. Donc, Panorama, c'est une intelligence artificielle pour l'inclusion qui est à disposition des managers, des référents handicap, des recruteurs. Et l'idée, c'est de les aider à mieux gérer la diversité des profils qu'on peut avoir dans une entreprise, avec du guidage, de l'aide conversationnelle, des recommandations, des pistes d'action. Et donc, pour les accompagner au quotidien. Ils ont créé un observatoire de l'inclusion sur le territoire des personnes en situation de handicap en emploi. Ils ont créé un parcours de recrutement inclusif pour vraiment aider la personne en situation de handicap qui arrive dans l'entreprise pour vraiment avoir un parcours. Un ouvre-boîte, où l'idée, c'est vraiment de trouver sur le territoire l'ensemble des entreprises qui seraient prêtes à ouvrir leurs portes. Et puis, par exemple aussi, vive la routine. Donc, c'est comment on travaille le télétravail quand on est en situation de handicap, avec le maintien du lien social, l'inclusion à distance et puis des rituels d'équipe qui sont inclusifs, en tout cas accessibles. C'est un collectif qui regroupe 479 membres. Il y a 13 structures qui sont en copilotage de ce collectif. Ils ont imaginé 144 solutions et il y a eu 9 cycles d'ateliers créés. Alors, pourquoi il est intéressant cet exemple ? Parce que c'est dans son approche territoriale et systémique qui part toujours des besoins des jeunes pour imaginer des solutions collectives et qui propose des solutions concrètes. On redescend, du coup, on revient en Ardèche. Et juste pour vous dire que, en tout cas, en Ardèche, il y a une réflexion, il y a des acteurs qui sont là présents sur le territoire. Il y a une réflexion depuis un an, justement, sur la question de l'emploi et du handicap sur le territoire. Comment on pourrait associer des personnes qui souhaiteraient changer de travail ou qui sont sans travail avec des entreprises en recherche de candidats. C'est une dynamique qui est portée notamment par... ils en parleront peut-être tout à l'heure, ils se présenteront tout à l'heure. Il y a la Maison de l'Emploi, et de la formation, la PAT, Cap Emploi, Am Sud, qui sont là et qui réfléchissent depuis un an. Et l'idée, alors on croise les doigts, ce serait d'expérimenter prochainement, donc restez connectés.
Merci beaucoup.
Je vais demander maintenant à Richard Villard et Stéphanie Levillain de vous présenter dans un premier temps en quelques mots et puis après j'ai quelques questions à vous poser.
Bonjour, je suis Stéphanie Levillain, enseignante spécialisée et coordonnatrice du pôle d'appui à la scolarité sur le secteur Lévance, Joyeuse et l'Argentière.
Donc je suis Richard Villard, éducateur spécialisé, issu du médico-social. Voilà, j'ai accompagné les jeunes porteurs de troubles psychiques, du neurodéveloppement et du comportement. Aujourd'hui, je suis détaché à temps plein sur le pôle d'appui à la scolarité de Joyeuse.
Voilà. Merci. Le pôle d'appui à la scolarité, donc ce que l'on appelle le PASS, intervient pour le soutien des élèves. Comment facilitez-vous la transition entre l'accompagnement scolaire et le milieu professionnel ?
Alors, je vais me permettre d'abord de présenter un peu ce qu'est le PASS, le pôle d'appui à la scolarité, parce que c'est un dispositif qui est tout nouveau, qui a été mis en place à la rentrée 2025, qui est copiloté par le ministère de la Santé via l'ARS et par l'Éducation nationale, donc d'où le binôme éducateur spécialisé, enseignant spécialisé. Pour l'instant, il y en a deux en Ardèche, donc sur le secteur de Crussol et sur le secteur de Joyeuse, et il y en aura cinq de plus, donc deux sur Aubenas, Aubenas-Vals et Aubenas-Intramuros, et trois sur le secteur d'Annonay à la rentrée 2026. Donc on va aussi un peu parler au nom de nos futurs collègues qui arrivent sur le secteur à la rentrée 2026, puisqu'ils seront plus concernés par les lycées. Nous, sur notre secteur, on a le lycée des métiers hôteliers à l'Argentière, mais voilà, on a moins cette problématique-là. Du coup, ça nous permet de présenter aussi les futurs PASS qui arrivent à la rentrée. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un regard croisé sur tout ce qui est difficulté scolaire que peut rencontrer un élève dans sa globalité. Donc c'est très très large. On intervient de la maternelle au lycée, mais CAP, brevet pro, bac pro, voilà. Et du coup, on intervient sollicité par la famille ou sollicité par les enseignants. Du coup, c'est un dispositif qui permet un regard croisé de l'éducateur spécialisé, donc avec toute sa culture et ses compétences, et de l'enseignant spécialisé pour pouvoir soulever les obstacles que peut rencontrer un élève, aussi bien en termes d'apprentissage pur et dur, troubles de l'apprentissage ou quoi que ce soit, mais aussi de comportement, de phobie scolaire, de phobie sociale. On a un panel d'actions qui est relativement large. Et pour ça, on peut mettre en place différentes propositions, on ne va pas dire des solutions, parce qu'on est, voilà, on est tout nouveau, on essaye encore. Mais l'idée, c'est de pouvoir mettre des aménagements pédagogiques ou éducatifs autour de l'élève, dans les milieux qu'il a l'habitude de fréquenter. Donc ça peut être aussi bien, du coup, la vie scolaire que l'entreprise quand il est en stage. Ça peut être mettre réorienté vers des personnels professionnels compétents, et ça peut être aussi du prêt de matériel pédagogique adapté si besoin. Voilà, donc on travaille aussi beaucoup avec les AESH qui sont sur le territoire pour pouvoir les amener à travailler au mieux avec les élèves qu'elles accompagnent. Du coup, pour répondre à la question, là, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, comme c'est très nouveau comme dispositif, on a surtout accompagné les élèves dans le milieu scolaire. On commence à avoir des situations avec des orientations des élèves dès le collège où ils ont besoin de faire des stages et ils sont un peu démunis face à cette nouveauté pour eux qui est le milieu professionnel. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire le pont entre l'entreprise et l'élève, d'accompagner l'élève au mieux dans sa création de CV, un peu comme on en parlait tout à l'heure avec la MLDS, lettre de motivation, appel, parce qu'ils ne savent pas toujours appeler un employeur pour pouvoir se vendre. Et voilà, ça ne marche pas toujours du premier coup, ils ne sont pas très à l'aise vis-à-vis de ça. Donc on les accompagne sur la construction de leur projet professionnel et on les accompagne sur la création des outils. Du coup, on analyse les besoins de l'élève en situation de handicap ou besoin éducatif particulier, hein, c'est pas forcément, on n'est pas forcément sur le handicap avec une notification MDPH, on intervient aussi en amont. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc on repère les besoins et les leviers qu'a l'élève, parce qu'il a aussi plein de possibilités de compétences dont on parlait tout à l'heure, qui sont pas forcément visibles du premier coup. On peut coordonner du coup avec le milieu professionnel, avec tout ce qui est accueil, être référent, faire le pont entre du coup le milieu professionnel et l'école, la famille et l'élève, et orienter vers différentes plateformes professionnelles qui peuvent les accompagner aussi, les missions locales, Cap Emploi. Voilà, on est en train de créer le réseau là actuellement pour nous et pour les futurs PASS, pour qu'il y ait vraiment un réseau de co-architectes, justement, comme on parlait, à ce niveau-là. Et on aide aussi les familles et l'élève pour tout ce qui est création et montage des dossiers MDPH, reconnaissance RQTH. Voilà.
Monsieur Villard, quelles informations et quels conseils sont nécessaires à donner aux tuteurs en entreprise pour mieux comprendre les particularités des jeunes lors de leur accueil ?
Déjà, c'est de ne pas avoir peur. Il y a quelque chose qui est souvent confondant dans la situation de handicap par rapport aux chefs d'entreprise qui vont tenter de recevoir, d'accueillir ces jeunes pour leur donner une chance, c'est un devoir de production, hein. Ils sont soumis à un devoir de production. Donc moi, pour revenir à ce que disait ma collègue qui a déjà dit beaucoup de choses, c'est on est très attaché à mettre la famille au centre. Donc la famille et évidemment le jeune qui est un élève, un apprenti, un futur professionnel. De ne pas être non plus dans la représentation, parce que les représentations se font à double sens. L'entreprise a une représentation d'une situation de handicap. Moi, je reproduis un petit peu ce que je faisais déjà en tant qu'éducateur dans un établissement de soins, c'était de traduire en fait. Le professionnel qui accueille un jeune qui est en situation de handicap, les handicaps dont je fais mention là, ce sont des handicaps qui ne sont pas forcément visibles. Aujourd'hui, je crois que ça s'élève à peu près à 80% de handicaps qui ne sont pas visibles. Donc, du coup, le chef d'entreprise qui accueille un jeune avec ce type de particularité ne sait pas qu'il ne comprend pas Donc mon travail à moi, ma tâche qui m'incombe avec toute humilité, c'est d'essayer de traduire déjà, d'informer le professionnel qui accueille que ce jeune-là a une particularité. Mais d'abord, il faut demander l'accord à la famille et surtout au jeune, à savoir s'il est d'accord sur cette forme de communication, sur sa différence. Donc si toutefois la famille et le jeune sont d'accord, ça consiste à créer du lien, à tisser un réseau entre l'entreprise, l'élève, la famille et l'établissement scolaire, qui lui aussi a tout un tas de connaissances de l'élève hein, au quotidien à apporter à l'entreprise. Donc ce réseau-là est extrêmement important à tisser et qui va favoriser ce que j'appelle moi la compréhension de la langue du jeune en fait. Voilà.
Fin de cette première partie de ce reportage sur Info RC. Je vous emmenais au lycée Astier d'Aubenas pour cette table ronde sur l'inclusion entre l'école et les entreprises. Pour en savoir plus, écoutez la deuxième partie.